vous reprendrez bien un peu de caté ? Une émission proposée par Anne-Elisabeth Verrière et Elisabeth Jacob.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission « Vous reprendrez bien un peu de caté », l'émission que nous suivons depuis 3 semaines avec le père David Duguay. Bonjour père David.
Bonjour Elisabeth.
Donc sur la question de la vocation en catéchèse et comment parler de la vocation avec nos enfants et nos jeunes que nous côtoyons en catéchèse ou en aumônerie. Alors la semaine dernière, nous avons vu des personnages hauts en couleur et passionnants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Pour cette toute dernière émission, nous allons parler de vocation avec les modèles d'aujourd'hui, j'oserais dire, c'est-à-dire ceux qu'on peut donner en exemple à nos enfants et à nos grands jeunes, petits jeunes et grands jeunes, et qui vont leur parler aujourd'hui sur ce que c'est que de répondre à cet appel d'amour du Seigneur, en fait, et y compris dans des vocations un petit peu particulières. Alors, je donne en exemple quelque chose dont j'ai un petit peu honte. Quand j'étais petite, j'adorais lire la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que dans le livre que j'avais, elle avait des cheveux magnifiques avant de rentrer au Carmel. Et donc, comme je voulais les mêmes cheveux que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bah, du coup, je voulais être comme elle. Donc ça, c'est juste pour une petite introduction, en expliquant qu'on n'a pas toujours, c'est pas toujours louable notre volonté de ressembler à tous ceux que le Seigneur a appelés de façon particulière.
Et pour nos auditeurs, je rappelle qu'Elisabeth est mère de famille et qu'elle n'a ni voile ni guimpe.
Voilà. Donc, quelles sont les figures aujourd'hui dont on peut servir pour pouvoir, même si je redis, j'aime pas cette expression se servir, mais j'en ai pas d'autres qui viennent, pour parler aux enfants et aux jeunes de la sainteté.
Je crois pas que ce soit nous qui nous servions des modèles de sainteté pour parler aux jeunes de la vocation et de l'appel à la sainteté. C'est Dieu qui se sert de nous et des uns et des autres qui sont reconnus comme saints par l'Église. Voilà. J'aime beaucoup ce que disait Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Thérèse de Lisieux, aux beaux cheveux. Thérèse disait qu'il y avait beaucoup plus de saints que ce que contenait le calendrier. Et je crois que c'est vrai. Et je pense que la première des choses, les premiers, ce que le pape François appelle les saints de la porte d'à côté, de permettre aux enfants de mesurer qu'il y a des saints et des saintes tout près d'eux, que les saints et les saintes ne sont pas des gens qui sont à l'autre bout. Alors je ne dis pas qu'il faut idéaliser et canoniser votre curé de paroisse, c'est assez peu probable, c'est sans doute pas le plus saint de la paroisse parce que le plus saint, c'est sans doute celui qui ne se voit pas. Mais dans toutes les paroisses du diocèse, je suis sûr qu'il y a des saints et des saintes, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui, dans la simplicité de leur vie, répondent à l'appel de Dieu. C'est pour ça que la première figure que j'aimerais proposer et évoquer, elle n'est pas toute récente, mais je crois que c'est Sainte Bernadette. Parce que Sainte Bernadette, dans sa vocation, elle répond particulièrement à ça. Elle répond à cet amour de Dieu qui tombe, elle l'écrit, hein, s'il y avait eu une fille plus pauvre à Lourdes que moi, c'est sans doute elle que la Vierge aurait choisie. Je trouve que c'est bouleversant dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle mesure dans son chemin de sainteté. Elle écrit ça plusieurs années après l'apparition à Lourdes. Dans son chemin de sainteté et dans la réponse qu'elle va en faire, elle mesure que Dieu se sert de chacun de nous, et j'utilise volontairement ce « sert » de chacun de nous pour être son messager, sa messagère, comme Bernadette l'est de la Vierge Marie à Lourdes. Et pour nos auditeurs, pour nous, on sait combien la Vierge de Lourdes a une place ancrée dans nos cœurs. Même si juste à ma gauche, j'ai la statue Notre-Dame de Pontmain.
Qui vous regarde quand même, hein, je ne voudrais pas dire.
Oui, mais vous savez bien que la Sainte Vierge, elle a beaucoup de robes parce que c'est une femme.
C'est vrai.
Mais que c'est la même.
Mais c'est la même, d'accord.
Et donc Sainte Bernadette, parce que c'est la sainteté de la simplicité, c'est la sainteté aussi, Bernadette, du réalisme. C'est-à-dire qu'elle est concrète. Notre-Dame lui dit, est-ce que ça vous ferait rien de manger de l'herbe pour la conversion des pécheurs? Elle va manger de l'herbe, elle ne se pose pas de questions. Allez boire à la source et vous y lavez. Elle va au gave parce que l'eau est là. Et la Vierge lui dit, non, pas ici, mais là. Et je trouve que c'est la docilité à la vie concrète de ce que Dieu déploie en nous et de son dialogue avec nous. Et elle a ça de frais pour des jeunes gens, je trouve, Bernadette, de cette simplicité. Bernadette, c'est pas une fille qui se prend la tête. Et donc ça, je trouve qu'elle est un beau modèle qui, même s'il est le plus vieux des trois modèles que j'ai choisi de vous présenter, est sans doute aussi celui qui est le plus accompli, car ayant répondu pleinement jusqu'au bout à sa vocation. Les deux autres modèles dont j'aimerais parler avec vous, c'est le bienheureux Frassati et le bienheureux Acutis, qui, eux, n'ont pas engagé leur vie. Mmh. Ils ont rejoint la patrie céleste avant d'avoir donné leur oui. Et donc, c'est pour ça que je trouve que Bernadette, elle a pour nous aussi cette... Elle a donné son oui à Dieu dans la vie religieuse, mais elle l'a donné. Ce que d'autres font, hein, quand on se marie, on donne son oui à Dieu dans le mariage, par son époux, par son épouse. Et je trouve que c'est très beau. Ce qui me touche dans la vocation de Frassati, c'est l'incarnation, vraiment, de ce commandement du Seigneur, tu aimeras ton prochain et ton Dieu, de tout ton cœur. Chez Frassati, il y a cette joie dans sa compagnie des types louches qu'il fonde avec ses amis d'université. Il y a cette joie de se donner aux pauvres de la ville où il réside, de se donner complètement jusqu'au point d'y choper la maladie avec laquelle, de laquelle il va mourir. Et jusqu'au bout, parce que sur son lit de mort, alors qu'il se prépare à accueillir le prêtre qui va le confesser, il fait venir l'un de ses amis pour lui donner le petit mot pour aller porter le médicament à la famille pour laquelle il a payé les médicaments, la famille pauvre. Et donc il y a cette unité dans la vie de Frassati que je trouve vertigineuse quand on meurt à 25 ans, d'avoir su incarner l'amour du prochain et l'amour de Dieu dans un souci joyeux. Il n'y a pas d'austérité chez ce mec, il y a de la folie. Et c'est bouleversant. Il le dit, hein, quand il est enfant, pendant la guerre, il dit à la domestique de la maison, il dit « Est-ce que tu es prête à donner ta vie pour que la guerre s'arrête ?» Et la servante lui dit « Mais non, ma vie est trop précieuse. » Et elle lui dit « Moi, je suis prête à le faire maintenant si c'est pour que la guerre s'arrête. » Et donc, il y a ce sens de l'autre qui est magnifique, je trouve, à exposer. Et finalement, il était prêt à se donner à Dieu sans passer par une vocation spécifique, ce qui est à la fois terrible, hein, parce que, mais à 25 ans, il était prêt, quoi. Puis le dernier, hein, la dernière figure, c'est la dernière figure peut-être une des plus récentes, hein, de sainteté que le Saint-Père nous a donnée, le saint ensuite à capuche, qui est Carlo Acutis, qui est déstabilisant dans sa volonté. C'est-à-dire à 7 ans, Carlo Acutis fait sa première, si ma mémoire est bonne, fait sa première communion, il décide d'aller à la messe tous les jours.
À 7 ans.
Par amour de l'Eucharistie. Et ce qui est le plus déstabilisant, c'est pas qu'il fasse ce vœu, c'est qu'il le vive jusqu'à sa mort à 15 ans. Parce que la seule semaine où Carlo n'ira pas à la messe tous les jours, c'est la semaine où il est hospitalisé. Jésus viendra à lui. Et donc, il y a la radicalité d'Acutis dans l'amour de l'Eucharistie. Et à 15 ans, pour reprendre la discussion que nous avons eue dans la deuxième émission, Carlo, qui avait un profond amour du sacerdoce, n'avait toujours pas tranché la question de sa vocation, selon les mots de sa maman dans la biographie qu'elle écrit de la vie de son fils.
Alors là, vous nous citez, voilà, deux, ça nous calme, hein, ces deux jeunes-là qui se donnent à fond, en fait, à l'amour de Dieu. On a l'impression qu'ils ont tout compris de l'amour de Dieu et du coup, ils peuvent se donner jusqu'au bout et la mort arrive tôt, finalement, dans leur devis. En vous écoutant, je me disais que quand on veut parler de la vocation, finalement, enfin, ce que j'aime bien dans ce que vous nous avez partagé dans chacune des émissions, c'est qu'au fur et à mesure, vous aviez pris l'idée de l'escalier, on est monté, Et le ciel s'élargit, c'est-à-dire d'une question des vocations qu'on pouvait avoir à l'esprit. Il faut prier pour avoir des prêtres. Voilà, là, on
a... Prier quand même
bien
pour
sûr,
qu'on ait des prêtres.
Et je suis la première convaincue.
Et des prêtres qui soient des saints.
Et des prêtres qui soient des saints. Mais je veux dire, là, on a élargi. Vous disiez que Frassati, en fait, l'amour des autres avait une place énorme dans sa vie. Le fait de donner aux autres, donner aux autres.
Et de Dieu. C'est-à-dire que Frassati était capable... au cours d'une sortie en montagne, d'aller faire un détour colossal pour pouvoir avoir la messe avec ses amis.
Voilà, oui. Que, donc c'était dans l'ordre.
Voilà, Dieu et son prochain.
Et en fait, en écoutant cela, y compris la petite Bernadette, parce que Bernadette avait une vraie joie. On la représente souvent comme... voilà, assez statique et voilà. Mais en fait, quand on découvre sa vie, on a eu la chance de faire une école de prière sur elle. Elle avait une joie incroyable, cette...
Et un tempérament de feu.
Oui, en plus.
C'est-à-dire qu'à une époque où on peut quand même dire de manière un peu lucide et honnête, au 19e siècle, que les femmes n'avaient pas forcément une immense liberté de dire ce qu'elles pensaient.
Elle est audacieuse.
Elle l'est d'une audace. Moi, je suis toujours saisi de voir Bernadette répondre au commissaire de police de Lourdes. Elle est d'une justesse.
Oui, surtout quand elle dit « on m'a demandé de vous le dire, pas de vous le faire croire ». En fait, elle est juste à sa place. Quoi. Elle répond à sa vocation, là, pour le coup, à ce qui lui est donné. Et en fait, du coup, je me dis qu'en catéchèse... Alors, j'aime souvent dire aux catéchistes, en fin d'année ou en début d'année, voilà, quand je leur parle, de leur dire si les enfants qui terminent une année de catéchèse ont la certitude au cœur d'être aimés par Dieu, votre année de catéchèse est réussie. Peut-être qu'ils ne connaissent pas leur « Je crois en Dieu par cœur », peut-être que ceci, mais si dans leur cœur est imprimé le fait que Dieu les aime, leur année de catéchèse est réussie. Quand je vous écoute, je me dis je ne suis pas complètement à côté de la plaque quand je dis ça aux catéchistes.
Au bout de la deuxième année, il faudra qu'ils aient juste compris que Dieu attend leur réponse.
Oh, voilà, exactement. Mais en fait, je me disais, il faut leur apprendre. Il faut leur donner vraiment qu'ils aiment, en fait. Qu'ils aiment le Seigneur parce que le Seigneur les aime. Et qu'ils aiment les autres parce que le Seigneur aime les autres et leur demande d'aimer les autres. Et quelque part, de ne pas s'inquiéter parce que le moment où Dieu les appellera à une vocation particulière... ça arrivera, il ne faut pas s'en inquiéter. Ce qu'il faut, c'est aimer, finalement.
Et peut-être que l'un des défis de l'Église aujourd'hui, en catéchèse, c'est peut-être d'apprendre aux jeunes gens ce que c'est qu'aimer.
Oui.
Dans notre société, notre temps, où l'amour est finalement quelque chose qui est si malmené. Et la manière dont Dieu nous aime est une manière qui est à la fois... folle, mais la seule qui nous fasse grandir. Et donc, c'est cette manière unique que Dieu a d'aimer qu'il faut aussi leur permettre de toucher du doigt. Et non pas de comprendre, parce qu'on ne comprendra jamais.
On ne comprendra jamais qu'au ciel.
Mais de mesurer la grandeur et la beauté qu'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Oui.
Nous avons l'habitude, généralement, de terminer l'émission par un rêve que nous aurions. Je pense que vous venez d'exprimer votre rêve et on espère vraiment qu'il devienne réalité en catéchèse. Et voilà, pour que chaque enfant puisse répondre. Eh bien, mon rêve à moi, c'est aussi que les catéchistes découvrent aussi l'amour de Dieu pleinement, de façon ensuite à pouvoir le vivre pleinement avec les enfants et les jeunes qui leur sont confiés. Un grand merci. Vraiment, Père David, pour ces 4 rencontres sur la vocation. Bien évidemment, nous redisons et nous rassurons tous nos auditeurs, continuez à prier pour qu'il y ait des prêtres et de saints prêtres, on en a besoin.
Mais finalement, des religieuses aussi.
Voilà,
des religieux et des foyers chrétiens qui cherchent à répondre à la sainteté dans le mariage. Parce qu'il n'y aurait pas eu Louise Élie Martin, il n'y aurait pas eu Thérèse de Lisieux, ses beaux cheveux.
Très bien, merci beaucoup, très belle conclusion. Et donc prions bien les uns pour les autres pour que nos cœurs se dilatent et puissent recevoir l'amour de Dieu.
Amen.
Un grand merci Père David.
Merci Elisabeth,
au revoir. Au revoir chers auditeurs.